sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'écrivain et musicologue Philippe Bossan a été élu à l'Académie française en 2007 au fauteuil 36. Il a été reçu sous la coupole le 23 octobre 2008 par Pierre Rosenberg. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance solennelle de l'Académie française. Vous entendrez le discours de Philippe Bossan faisant l'éloge de son prédécesseur, Jean-François Deniau, suivi de la réponse de Pierre Rosenberg au discours de Philippe Bossan. Retrouvons sous la coupole Philippe Bossan.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Philippe Bossan pour la lecture de son remerciement.
Mesdames et messieurs de l'Académie, le grand honneur que vous me faites en m'accueillant parmi vous et dont je vous remercie m'a beaucoup préoccupé. Comme bien vous l'imaginez, il n'était pas loin de me faire peur. Non pas l'honneur lui-même, bien entendu, mais ce qu'il engendre. Jean-François Deniau, il faut déjà que je le cite, fait remarquer dans « Ce que je crois » combien les mots les plus forts de notre langue, ceux qui sont le plus chargés de réflexions morales, jésuitiques ou jansénistes ou philosophiques, comme on disait au XVIIIe siècle, peuvent parfois devenir triviaux et terre-à-terre dès qu'on les met au pluriel. Le bien, avec un B majuscule, qu'il est médiocre lorsqu'il est devenu les biens sans majuscule et avec un S, et que Balzac peut en faire le sujet d'un de ses romans avec des notaires et des tabellions. La valeur, celle qui n'attend pas le nombre des années, qu'elle est devenue triviale lorsqu'au pluriel elle est cotée en bourse. Alors, l'honneur, impitoyable honneur mortel à mes plaisirs. C'est Corneille qui parle. C'est vrai, l'honneur que vous m'avez fait n'a cessé de me préoccuper à cause de l'éventualité de son pluriel. Ah, que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie. C'est toujours Corneille qui parle à ma place. Le danger que je pressentais, c'était bien de confondre l'honneur et les honneurs qui l'accompagnent comme des pages ou des gardes faisant sonner leur tambour, et de m'y contempler moi-même comme dans un miroir, déformant, bien sûr. Dieu merci, votre Académie me transmettait la tradition qui est la vôtre depuis que le cardinal de Richelieu, il y a 373 ans, vous a réuni pour la première fois. Tradition, voilà un mot qui n'est plus très à la mode, à moins d'être au pluriel et de fasciner les ethnologues, tous disciples de notre confrère vénéré Claude Lévi-Strauss. Étrange, n'est-il pas vrai? Alors qu'on se passionne de nos jours pour l'origine des choses, des continents et des constellations, on voudrait qu'un homme fût libéré de tout ce qui le rattache à ce qui a fait de lui ce qu'il est. Il faudrait qu'il fût neuf à chaque minute de sa vie. La tradition, donc, est une incongruité, puisqu'elle est censée contraindre l'homme à se plier à ce qu'il n'a pas décidé lui-même durant la minute précédente. Traditionnaliste est devenu une indécence. Je vous suggère, mesdames et messieurs de l'Académie, et ce sera peut-être mon premier rapport à votre travail, le nôtre désormais, de restaurer son vieux cousin oublié, traditionnaire. Cela rime avec dictionnaire, c'est excellent. Votre tradition est d'une grande sagesse. Au moment même où le nouvel élu risque de se tromper entre l'honneur qu'on lui fait et les honneurs qu'on lui présente, elle lui suggère, tel un vieux mentor le tenant par la main, que son unique pensée, minute après minute, s'éloigne de lui-même et se dirige vers un autre. Ne pensez pas à vous, ne vous regardez pas. Oubliez même ce que vous avez fait et dont vous étiez fier. ne pensez plus qu'à celui qui était là et qui vous a précédé. Lisez-le, relisez-le. Ce qu'il a fait est toujours là. Oubliez-vous pour un moment, bien que ce soit la chose la plus difficile à un écrivain ou à un artiste. Oubliez-vous, c'est de lui seul qu'il s'agit aujourd'hui. La Bruyère, qui a occupé il y a 3 siècles ce 36e fauteuil, a écrit cette judicieuse sentence. Personne ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre. Il faut donc qu'on y soit conduit. Ainsi, votre tradition m'oblige à me concentrer sur les mérites d'un autre et veut que je ne pense qu'à Jean-François Degnaud, celui qui a écrit « Les mémoires de cette vie ». Cette vie, vais-je devoir prononcer 7 discours ? J'y renonce, parce que cela me mènerait à faire précisément ce qui ne convient pas lorsqu'il s'agit de Jean-François Degnaud. Il me faudrait en effet diviser le sujet en 7 parties, écrire 7 chapitres, l'enfance, la formation, l'activité politique, l'action ministérielle, l'écrivain, l'amoureux de la mer, le baroudeur des droits de l'homme. 7 chapitres bien ordonnés, c'est impossible, justement parce que chez Jean-François Degnaud, tout se mêle. Rien n'est vrai, rien n'est juste si l'on ne s'est pas occupé simultanément d'un autre Jean-François Degnaud qui semble faire autre chose et qui, justement, en étant ailleurs, se trouve au cœur du sujet. Écrit-il un roman ? 30 ans plus tôt, ce qu'il raconte, c'était sa vie. Mais pas la vraie. Vécue, bien sûr, mais débordée par l'imagination. Parcourt-il le Cambodge ou l'Afghanistan ? C'était déjà écrit dans un livre. Fait-il à 20 ans de l'ethnologie dans le sud marocain ? 40 ans plus tard, mêlé au récit d'un conteur qui ne sait pas trop où il est, ce sera dans La Lune et le Miroir, une histoire qui n'est pas plus vraie que si elle était l'œuvre d'un romancier qui n'aurait jamais quitté sa table. Les 7 vies de Jean-François Degnaud ne se succèdent pas comme la jeunesse à l'enfance, ni la vieillesse à l'âge mûr. Ces livres ne se séparent pas de ces 7 vies au temps sans cesse décalé. Tout se mêle, s'enchevêtre et semble parfois se contredire. Mais lorsque l'imaginaire se mêle à la réalité, comment prétendre qu'il pourrait y avoir contradiction ? Les déserts de l'Érythrée et de l'Afghanistan, face à la mer, elle-même plus douce et immobile à l'horizon que n'est jamais la terre, ou bien capricieuse et légère, tempétueuse et angoissante, et la politique, et les ministères, l'Europe naissante, et le traité de Rome, et les ambassades, aussi différentes les unes des autres que la Mauritanie et les palais madrilènes, et l'hôpital, les chirurgiens, et la souffrance, et l'angoisse, et les livres, toutes sortes de livres, des romans, des essais, des mémoires, qui parlent de l'hôpital, de la mer, de la politique, de l'enfance, des déserts. Ce serait trop facile si tout était en ordre comme sur une étagère et que les 7 vies se succédaient comme les jours de la semaine. C'est précisément le contraire qu'il convient de faire si l'on veut tenter de cerner qui était Jean-François Degnaud et ce qu'il a fait. Il a pris soin tout au long de sa vie de soigneusement entremêler le rêve, l'action et l'écriture. Et dans l'action, les missions les plus officielles et les plus manifestes, rédiger le préambule du traité de Rome, et les plus secrètes, marcher dans les montagnes d'Afghanistan, au milieu des maquisards et sous le feu des soviétiques. Et puis lorsqu'il écrivait, faire en sorte de ne jamais distinguer clairement ce qui relève du roman, ce qui est un souvenir, ce qui est un souvenir transformé en roman, ce qui est une histoire vraie qui se déguise en souvenir, mais imaginaire, pour mieux se transmuer en une page subrepticement glissée au milieu d'un ouvrage documentaire ou didactique. Non seulement donc je ne ferai pas 7 discours, mais je vais continuer à parler dans un apparent désordre, puisque Jean-François Degnaud le veut ainsi. Il faut sans cesse entremêler, comme il l'a fait, sa vie, ses livres, la politique, les missions secrètes, la maladie, la souffrance, la mer et son courage. Et par-dessus tout, le double jeu permanent de ses deux passions, écrire et agir. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est lui. Il a écrit sur ce sujet un étonnant petit ouvrage où tout est dit dans le titre même, « Double passion » et dans le sous-titre « Écrire et agir ». Ce qu'il y expose, on en connaît des bribes. On sait bien qu'il y a eu des hommes d'État qui se rêvaient artistes et des gens de lettres qui se seraient bien vus souverains ou grands moguls. Certains l'ont fait, en musique comme en littérature. Des hommes d'État qui jouent du piano ou de l'orgue, il y en a. Frédéric II, durant tout son règne, jamais un ministre ou un ambassadeur n'a pu lui adresser la parole à 5 heures du soir. Il ne connaissait alors que sa flûte, la mesure de son propre souffle et l'agilité de ses doigts. Il a composé 120 sonates, ce qui est un bon chiffre pour un roi, et quelques concertos, tous pour sa flûte et donc pour lui-même en soliste. Il n'y a pas si longtemps, le roi de Danemark dirigeait de sa baguette l'orchestre symphonique de Copenhague. Mais a-t-on assez mesuré les liens de la littérature et de l'action, de la plume et de l'épée? La plume et l'épée, nous les connaissons bien toutes deux, mesdames et messieurs de l'Académie, puisque nous ne cessons de manier l'une et de porter l'autre. La double passion, écrire et agir, nous sentons bien que c'est, de la part de Jean-François Degnaud, une déclaration de principe, un manuel de littérature appliquée consacré au mélange des genres. Nous savons bien que Chateaubriand, Lamartine, Stendhal, Victor Hugo, Beaumarchais et bien d'autres les ont eus toutes deux. Saint-Simon n'a si bien écrit que par rancœur de n'avoir pu gouverner. Ce qui étonne, c'est de les voir rassemblés côte à côte dans ce livre et franchissant sans cesse le Rubicon du partage des disciplines. Et puis d'autres qu'on ignore. Qui se souvient que Georges Clemenceau écrivait des livrets d'opéra? Et à l'inverse, que Cervantes fut blessé à la bataille de Lépante? Et que Napoléon, avant le pont d'Arcole, se voyait écrivain et non pas général? Qu'il a écrit des romans sentimentaux, Clisson et Eugénie, et des nouvelles, et des contes, et le souper de Beaucaire? Bien entendu, le plus étonnant est Richelieu, à qui nous devons d'être réunis ce soir, et qui disait « À quoi pensez-vous que je prenne le plus de plaisir ?» Et si on lui répondait « À faire le bonheur de la France ?» Il répondait à son tour « Point du tout, c'est à faire des vers. » De qui sont ces tragédies ? L'Académie française se devait d'être utile. Mais Miram fut un triomphe. La littérature, comme la flûte de Frédéric II et les opérettes de Clemenceau, peut n'être qu'un divertissement. Cela peut être aussi une chose grave. Et lorsqu'il s'agit de Jean-François Degnaud, c'est précisément cela qu'il voulait nous dire. Et c'est même plus douloureux qu'on ne pensait lorsqu'il écrit « Vouloir à la fois écrire et agir, courant l'ombre et la proie, sans pouvoir choisir le bonheur. Écrire ou agir, quel est celui qui est le deuil éclatant de l'autre ? » Choisir, pour Jean-François Degnaud, c'était donc un deuil. Il continue. L'homme de pouvoir se dit « J'ai perdu ma vie dans l'agitation des jours. » L'écrivain pense « Des mots, je ne laisse que des mots. » Il faut au moins 2 vies pour espérer en laisser une. 2 vies ou 7, se succédant l'une à l'autre, en bon ordre, ou si soigneusement entremêlées que mon discours est contraint d'aller et venir en tous sens. Je vais poursuivre, puisque Jean-François Deniaud le veut ainsi, au gré des vagues, dont il nous dit qu'il faut surtout redouter celles que provoque un trop fort vent arrière. Je n'ai jamais rencontré Jean-François Deniaud. Je ne lui ai jamais parlé. Je l'ai croisé une fois ici même, dans la salle Comtesse de Caen, après l'une de vos séances à laquelle j'avais eu le privilège d'assister. Il s'avançait seul, appuyé sur sa canne, le regard sévère et le cou raidi par sa minerve. Nos yeux se sont croisés une seconde. Je ne lui avais pas été présenté, il ne me connaissait pas. Nous ne nous sommes pas parlé. Cette seconde à distance est marquée dans ma mémoire, mais je n'ai rien pu connaître de son charme lorsqu'il racontait des aventures dont personne ne savait si elles étaient ou non imaginaires, ni de sa prodigieuse mémoire. C'est peu à peu, à mesure que je lisais et relisais ses livres durant ces derniers mois, que j'ai cru entrevoir à travers ses mots un personnage infiniment complexe qui se refusait justement à choisir. Et le plus étonnant, c'est bien qu'il le fasse dire par l'un de ses personnages, Claude Vel, le héros de l'Empire nocturne, qui semble parler à sa place et avec ses propres mots. Je le cite. « À 20 ans, j'avais une peur maladive de m'enfermer dans un rôle, une seule voie, une carrière. Rester disponible me paraissait beau et nécessaire. » De qui s'agit-il, on se le demande, de Claude Vel ou de Jean-François Deniaud lui-même? Et il ajoute, « Curieux monde, si vous n'êtes pas esclave, vous êtes jugé léger. Étrange bête, les hommes, ils ont besoin du poids de leurs chaînes et de leurs boulets pesés avec eux pour être sûrs de leur propre poids. Pas de chaînes, donc, pas de boulets. » La gloire à 20 ans, je suppose que c'est ce qu'il voulait pour lui-même lorsque, 30 ans plus tôt, il était au lycée. Mais déjà, avec une manière bien particulière de se mettre en relief. Faire toujours et brillamment le contraire de ce qu'on attendait de lui. Avait-il fait des études classiques, dissertation, thème latin, version grecque ? Il passerait donc remarquablement son baccalauréat de lettres classiques. Eh bien non, mathématiques. L'anglais, c'était sa seconde langue, si je puis dire maternelle, avec même, il l'a écrit, un peu d'accent australien, transmis par Madame Mère. Il allait donc se présenter à l'épreuve d'allemand. L'anglais, c'était trop facile. Une licence de sociologie ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas un travail d'ethnologie dans le sud marocain où il étudierait un sujet inédit, le rituel de l'eau, qui étonnerait ses maîtres ? Se présenter à l'École nationale d'administration ? Bien sûr, puisque c'est la voie royale de la République. Mais il part aussitôt pour le Vietnam et rejoint son frère Xavier pour son temps de coopération. Il disparaît alors dans les maquis au milieu des peuplades Moy. Et vient le moment du concours, et il dérange toute l'administration en le passant tout seul à Saïgon de 9h du soir à 3h du matin, car il faut bien respecter l'inévitable horaire des épreuves écrites, bousculées par le décalage. Il vise les affaires étrangères, qui est un bon chemin. Mais aux affaires étrangères, justement, le chemin est un peu trop lent à son goût. Il préfère donc l'inspection des finances, ce qui lui permettra d'être ambassadeur en Mauritanie à 35 ans, 10 ans avant les autres, après 3 années d'ennui passées à inspecter. La tradition à l'ENA est-elle de faire deux stages successifs, dont un obligatoirement en province ? Ce sera donc d'un seul tenant, une année entière en Allemagne, parce que, dira-t-il, il faut un an pour être efficace. Jamais de chaîne. Point de boulet. Permettez-moi de parler un moment à la première personne, pas du tout pour parler de moi, mais pour vous retracer quelques-unes des feintes et des ruses que le hasard a élaboré pour qu'il me fût possible, presque en secret, de m'approcher de Jean-François Degnaud à mesure que je lisais et relisais ses livres ces derniers mois, tandis que, je vous l'ai dit, je n'ai croisé qu'une fois son regard. Cela me donnera en même temps l'occasion de mélanger, moi aussi, les genres. Jean-François Degnaud a été élève du lycée Pasteur à Neuilly. Moi aussi. J'ai donc rêvé que peut-être il avait pu m'arriver de le croiser il y a 60 ans, tandis que tintait la sonnerie des fins de classe et que les élèves se précipitaient dans les couloirs. Je sais maintenant que le calendrier me l'interdit et que mes 3 ans de moins ont fait en sorte qu'il venait de quitter le lycée Pasteur lorsque j'y ai suivi les classes de première de philo et d'hippocagne. Mais mon rêve a aussitôt rebondi, et je voudrais que sous cette seconde forme, il soit vrai, et que vous le partagiez un instant. Serait-il possible qu'à 3 ans d'intervalle, nous ayons eu le même professeur ? Je le crois, car Jean-François Degnaud a écrit « Ce professeur respecté nous disait « Gardez du temps pour mettre au propre ». J'ai entendu les mêmes mots. Monsieur Andrieux, vous m'avez enseigné la littérature française et la littérature grecque. Vous m'avez fait aimer Racine et Sophocle. Je vous vénérais. J'affirme, et il est important que je le proclame maintenant à la place où je me trouve, j'affirme que c'est vous qui avez chevillé en moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, la certitude que ma vie était destinée à écrire des livres. Je composais pour vous, monsieur Andrieux, mes petites dissertations, en les soignant comme de minuscules chapitres. 3 ans plus tôt, avez-vous été le professeur de Jean-François Degnaud ? Est-ce vous qui avez incrusté dans son esprit, comme vous l'avez fait dans le mien, le désir d'écrire ? Car Jean-François Degnaud composait déjà ses petites pièces de théâtre, et quelques années plus tard, il écrivait son premier roman, Au bord des larmes. Il était plus vif que moi. Est-ce très important ? Je ne sais, mais laissez-moi rêver, mesdames et messieurs de l'Académie. Rêvez aussi un instant, s'il vous plaît. Je suis ici, 60 ans plus tard. Je vous parle de Jean-François Degnaud, qui occupait ce 36e fauteuil. Se pourrait-il que nous devions, l'un et l'autre, à cet admirable vieux professeur, ce qui a fait notre vie et qui me fait aujourd'hui vous parler de lui avec émotion ? J'ai habité l'Australie du Sud durant 5 ans, et précisément Adélaïde. Quelle surprise d'apprendre, en lisant les mémoires de cette vie, qu'en 1848, c'est à Adélaïde, la seule ville d'Australie où il n'y ait pas eu de banni ni de bagnard, que débarqua Mr. Charles Simons, l'arrière-arrière-grand-père irlandais de Jean-François Degnaud. Mon premier mouvement a été, bien entendu, de rechercher dans les images de ma mémoire ces petites maisons de la vieille ville, minuscules, avec leurs petits jardins, construites à la fin du XIXe siècle, comme si elles étaient irlandaises. J'ai habité l'une d'elles pendant les premiers mois de mon séjour australien. Détail sans importance encore, point du tout. Ces Australiens que j'ai connus et fréquentés pendant 5 ans, que j'ai toujours trouvés si fidèles comme leur maison, à leurs racines écossaises, anglaises, mais surtout irlandaises, avec ce mélange de raideur et de spontanéité, de rigueur et de fantaisie, et rendu chaleureux par le climat presque provençal de cette Australie du Sud, tous, je les ai reconnus chaque fois que je lisais une page où Jean-François Degnaud parlait de Madame Mère, sa mère, la petite fille de Mr. Charles Simons, née elle-même à Melbourne et qui vint en France à l'âge de 16 ans. Même les jeux de mots de Madame Mère, je les reconnaissais quand elle nommait « trépassé » ceux qui dépassaient les limites. J'avais tant ri moi-même avec mes enfants quand nous lisions à l'entrée d'une propriété australienne « The trespassers will be prosecuted », ce que nous traduisions en pouffant « les trépassés seront persécutés ». Mais l'Australie m'a permis de comprendre quelque chose du personnage de Madame Mère et, à travers elle, de Jean-François Degnaud, et même son accent. Quand on débarque à Adélaïde, attention à celui qui vous demande « Did you arrive to die ?» à qui vous devez répondre que vous êtes arrivé en effet aujourd'hui, mais pour vivre, pas pour mourir. Jean-François Degnaud me paraît incompréhensible sans Madame Mère, sa rigueur et sa douceur, et tous les principes de sa vie. « If you can't be good, » disait-elle, « be careful. » Il a écrit « J'aurai très souvent dans la vie l'occasion de me demander dans une situation difficile ce que ma mère aurait recommandé de faire. » La réponse est « le plus difficile », avec cette réserve que tout ce qui est spectaculaire est plus facile. Et quand nous nous remémorons ce que Jean-François Degnaud a fait dans sa vie, ses voyages dans tous les pays du monde où un peuple était asservi et se révoltait, en Afghanistan avec Amin Vardak et Alain Boinet, en Bosnie, au Cambodge, au Nicaragua et en Érythrée, lorsqu'on est venu lui dire « Nous sommes persécutés et personne n'en dit rien dans le monde » et qu'il a répondu « J'y vais ». On entend Madame Mère. Elle disait « Quand deux chiens se battent, prends parti pour celui du dessous. » Elle appelait cela « l'underdog ». Madame Mère avait une dévotion particulière pour Saint-François-Xavier. Elle faisait régulièrement le pèlerinage à Goa sur sa tombe. À 70 ans, comme il n'y avait plus de place sur aucun paquebot, elle s'engagea comme lingère sur un cargo. Jean-François Degnaud affirme à plusieurs reprises qu'elle ne donnait jamais d'ordre. C'est le meilleur moyen de faire naître le sens de la responsabilité. Je suis allé plusieurs fois au Cambodge dans les années 60, avant la terrible guerre et l'abominable tyrannie qu'ont connu ce pays si attachant et ce peuple si aimable. Je n'ai pas seulement été admiré à Angkor Wat. Norodom Sihanouk avait su garder son royaume à l'écart de la guerre et dans ces années-là, on pouvait encore se promener partout et même seul, comme je l'ai fait. Il suffisait en entrant dans un village au milieu des rizières ou perdu dans le fond des forêts immenses de prononcer une petite phrase. Men men American Knyom Barang. Je ne suis pas américain, je suis français. Aussitôt, les visages s'éclairaient et tout le monde souriait. 60 ans plus tard, j'ai retrouvé tout cela si proche et si vrai dans les mémoires de cette vie, dans 2 heures après minuit. Dans les pages où Jean-François Degnaud raconte son expédition au milieu des peuplades Moy, dans les maquis de la guerre du Vietnam. Je l'ai retrouvé d'une manière encore plus forte, transfigurée cette fois par l'imagination du romancier, dans « L'Empire nocturne », ce livre qui me paraît l'un des révélateurs les plus fidèles et les plus précis de la personnalité complexe, multiforme, contradictoire de Jean-François Degnaud. J'ai tout reconnu dans les détails, les gens, leur mode de vie, leur manière d'être, les moustiques, les éléphants. Lire et relire l'Empire nocturne, après avoir connu le fond de la forêt cambodgienne, ce n'est pas, je l'affirme, lire le livre d'un autre, ce n'est même pas lire un livre, c'est entrer dans le rêve de celui qui a rêvé d'être roi dans la forêt, comme disait Kipling, l'un des auteurs favoris de Jean-François Degnaud, enfant. Et justement, le lire ainsi, c'est pénétrer encore plus avant dans ce qu'il était. Car roi dans la forêt, il ne l'a pas seulement rêvé, il ne l'a pas seulement raconté dans un roman. Ne l'a-t-il pas été, à 19 ans, à l'âge où l'on voudrait reconstruire le monde, ce qui est très précisément le sujet de l'Empire nocturne, écrit 40 ans plus tard. Arrêtons-nous un instant, s'il vous plaît, sur cet empire nocturne dont le héros, Claude Vell, déclarait qu'il n'avait jamais pu choisir. Bien entendu, c'est un roman, mais un roman à la Degnaud, c'est-à-dire que l'on ne peut jamais déterminer ce qui est du domaine du rêve adolescent, du réel imaginaire. à peine consent-il à décaler la topographie. Cela ne se passe pas dans les forêts du pays Moy, qu'il a connu à 19 ans, mais juste un peu plus loin, au nord de la Birmanie. Les Moy sont devenus des Kachen, simple camouflage. Le reste est transparent. On y voit une petite ville, artificiellement créée dans ce pays sauvage. On y entend parler entre eux avec un amour assez rude, avec un humour assez rude dans la parodie. Le langage de notre civilisation, quand son arrogance est transcrite par des médiocres. Convertir les natives tout nus en leur distribuant des chemises pour qu'ils deviennent civilisés. Écoutez parler le pasteur. Tout indigène qui en a porté une ne se sent plus déjà le frère de celui qui vit encore nu dans la brousse. Et quand il sera habillé comme nous, il voudra vivre comme nous, puis il pensera comme nous. Ce chapitre de l'Empire nocturne est d'une férocité terrible. Je cite encore, « Un indigène qui a reçu 20 ou 50 roupies apprend la valeur de l'argent, il les dépensera, il aura envie d'en avoir 50 autres, il quittera la brousse, il deviendra quelqu'un, un homme normal. » C'est alors qu'apparaît, lorsque tout est en place pour le contraste, Claude Vel, celui qui s'est voulu et s'est fait prince au fond de la forêt. Il construit un royaume Kachen, où toutes les valeurs de ce que nous appelons civilisation se trouvent inversées. Il édicte des lois qui sont le contraire de nos lois. Un royaume, un monde imaginaire, où tout est construit sur la simplicité de la nudité. Ce sera bien entendu un échec, et le roman de Jean-François Degnaud va être la transcription tragique de cette anticulture lentement contaminée de l'intérieur par ce qu'elle prétendait nier. La Désirade, que Jean-François Degnaud avait écrit 2 ans plus tôt, c'est encore un roman, et même un roman d'aventure. Un roman historique aussi, puisque Nicolas-Jean Lafitte a vraiment existé au XIXe siècle et qu'il a été vraiment corsaire. Mais on sait suffisamment peu de choses sur lui pour que Jean-François Degnaud puisse inventer ce qu'il veut, que son corsaire fasse fortune sur les mers, défende la Louisiane contre les Anglais, change d'état civil, comme le personnage de cet autre roman, un héros très discret, rencontre Lamartine et Victor Hugo, fasse cadeau à Karl Marx de toute sa fortune pour l'aider à publier son livre, avant de disparaître à nouveau dans les forêts d'Amazonie. Mais c'est là justement que Lafitte avait rencontré au début un étrange personnage qui, exactement comme Claude Vel, tentait de construire avec des hommes tout nus une civilisation qui serait le contraire de la nôtre. Voyez comme il rendait la justice. Je cite « Le coupable n'est pas tué, mais tous les autres Indiens font comme s'il n'avait jamais existé. » On ne lui parle pas, on ne le touche pas, on ne le voit pas. Si on le regarde, c'est comme s'il était transparent. Les yeux passent à travers lui. Nous appelons cela le châtiment de la mort blanche. Je sais bien moi-même ce que c'est qu'écrire un roman. Et vous aussi, mesdames et messieurs de l'Académie, vous le savez. Je sais bien de quel mélange de souvenirs non identifiés, j'appelle cela les ovnis de l'imagination, de combien de vieux rêves enfouis et d'inventions que l'on croit neuves, il est tissé. La première lectrice de tous mes livres, mon épouse Marie-Cécile, le sait bien aussi quand elle déchiffre mes brouillons. Nous savons tous que nous n'inventons pas grand-chose, que nous ne faisons qu'un travail au petit point sur le vieux tissu de nous-mêmes. Mais chez Jean-François Degnaud, cela va parfois beaucoup plus loin, et surtout avec des mailles plus serrées. Celui qui se voulait le roi dans la forêt se mêle au héros très discret qui déroule en lui-même et autour de lui une autre vie que la sienne, étonné de ne pas savoir pourquoi il n'est pas celui qu'il est, ni pourquoi il est celui qu'il n'est pas. Les romans de Jean-François Degnaud ne sont pas seulement des romans. Bien entendu, on y retrouve tout ce qu'il a aimé quand il avait 10 ans et qu'il lisait avec passion. L'île mystérieuse, l'île au trésor, qu'il disait savoir par cœur. Mais pourquoi toujours des îles ? Le livre de la jungle, pourquoi toujours la jungle ? Lord Jim, les rêves imaginaires, il les porte en lui, comme nous tous. Mais voilà, l'île au trésor, il ne se contente pas d'en rêver comme nous faisons en lisant Jules Verne et Stevenson. Chez lui, cela se transforme en acte. Le romancier Degnaud ne peut être détaché du Degnaud homme d'action. Aimer la mer, ce n'est pas seulement se transfigurer soi-même en surcouffe de 12 ans, ou en la Pérouse adolescent, ou en Laffitte, c'est monter sur un bateau et affronter les vagues pour faire de la mer rêvée une mer vécue. Puis cela se retourne sur soi, et le rêve devenu vrai devient un nouveau roman qui, par-dessus les vagues, remonte vers l'enfance. Long John Silver, avec sa jambe de bois, devient le héros de la Désirade. Et puis cela repart dans l'autre sens pour recueillir des boat people perdus en mer de Chine, dans la vérité. Et cela se retourne à nouveau, et cela devient Ce que je crois et 2 heures après minuit, l'un des livres, me semble-t-il, les plus importants. 2 heures après minuit, disait Napoléon, c'est le moment où il faut avoir du courage. Ceux qu'il met au plus haut ne sont pas les plus célèbres, Ney, Murat ou Lannes. Le courage est plus facile dans l'excitation du combat et la chaleur de l'action. Le grand courage est autre. C'est pour Napoléon celui des heures qui précèdent l'aube, quand le jour passé est oublié et que celui qui doit venir tarde tant à paraître qu'on commence à douter de lui. Au cœur du fond de la nuit, quand il fait froid dehors, qu'on a froid au-dedans et qu'on est seul. Napoléon se souvient de ceux qui, réveillés 2 heures après minuit, étaient capables de courage. Mouton, Serrurier, MacDonald, des noms moins connus pour des combats obscurs. Jean-François Degnaud avait été 6 fois ministre, ambassadeur en Mauritanie, puis auprès du roi d'Espagne, Juan Carlos. Il avait travaillé à la négociation du traité de Rome, à sa ratification. Il avait été député du Cher. Il devient alors ce qu'Alain Perfit appelle le paladin des causes étouffées, en Érythrée, en Afghanistan, au Liban, en Amazonie, en Bosnie, au Cambodge. C'est l'application au pied de la lettre du précepte de Madame Mère. Prendre toujours parti pour le chien qui a le dessous, underdog. La seule réponse à l'interdiction d'aller, c'est d'aller. À nouveau, ce que Jean-François Degnaud avait écrit devient vécu. Au bord des larmes est le titre qu'il avait donné à son premier livre, un court roman qu'il publia lorsqu'il avait 25 ans sous le pseudonyme de Thomas Cerc, emprunté à une petite île près de Guernsey. Déjà la mer. Et relire ce livre de jeunesse, après qu'on a tenté de le suivre dans le chemin de sa vie, après qu'on s'est efforcé de dénouer les fils de sa pensée et de la manière dont il en fait une action, cela a quelque chose de bouleversant. Car dans les dernières lignes de ce roman de 25 ans, il mêle déjà les rêves d'adolescent et la réalité qui n'existe pas encore. C'est comme un programme de vie qu'il aurait suivi à la lettre, ou comme une prémonition. Je cite les dernières lignes de ce premier livre. Ce n'est pas Degnaud qui parle, c'est son personnage, Julius. Mais on croirait l'entendre lui-même. Ce que l'on fera un jour de grand, de beau, de surprenant, parce qu'à 18 ans, on avait eu des rêves, on s'était fait des idées, les larmes vous étaient montées aux yeux et on avait dû lutter pour ne pas pleurer. Julius quitte la rambarde remonte le col de sa veste, enfonce son chapeau. Avant de redescendre vers Paris, les marches de la passerelle, il hoche la tête et puis remue les épaules. Il est au bord des larmes. Mais pourquoi la mer ? Ni le marin, ni le poisson qu'un autre poisson à manger entraîne, mais la chose même et tout le tonneau et la veine vive et l'eau même et l'élément même, je joue, je resplendis. La mer telle que l'aime Jean-François Degnaud, ce n'est évidemment pas celle de Paul Claudel. Encore qu'elle soit, si j'ose dire, de la même eau. Mais pourquoi, chez Jean-François Degnaud, cette passion de la mer ? Elle l'a poursuivie durant toute sa vie, depuis ses 15 ans, jusque lorsqu'il embarquait sur un bateau de pêche à Granville, la gloire de Dieu, quel beau nom pour un bateau, jusqu'à son voyage fou à la sortie de l'hôpital. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le sport, ce n'est pas le tourisme, ce n'est pas non plus la splendeur de l'horizon, même si cette passion est faite d'un peu tout cela. Elle va beaucoup plus loin. Et je crois qu'on peut commencer à en approcher les raisons en lisant et relisant ces livres, mais cette fois dans l'ordre. Si fort qu'on aime ceux où il parle directement ou ouvertement de la mer est ronde, l'Atlantique est mon désert, et le délicieux dictionnaire amoureux de la mer dans lequel j'ai réappris le vieux vocabulaire que j'aimais tant quand j'étais enfant, moi aussi, le hunier, le perroquet de fougue et le petit cacatois à hurler de rire quand on a 10 ans. Ce n'est pas tant dans les livres où la mer est nommée, désignée, qu'on peut approcher le cœur de la passion de Jean-François Degnaud. J'ai commencé à l'entrevoir dans ceux où il ne s'occupe plus d'elle, mais de problèmes concernant l'homme, la civilisation, la morale et l'action. Ce que je crois, Histoire de courage, 2 heures après minuit. Il n'y parle pas de la mer, mais elle est là, et on la découvre peu à peu comme la marée qui monte, et elle devient, à la fin, une évidence. La mer, c'est l'élément où l'homme est totalement responsable de ce qu'il fait. Bien entendu, il y a les vagues, les courants et le vent, et parfois la tempête et la nuit, et les interminables heures de nuit à la barre. Mais voilà, en mer, sur mer, c'est toujours l'homme qui décide. La terre, qu'il le veuille ou non, lui impose ses lois, des fleuves, des montagnes, des marais. En mer, pas de route, pas de sentier, pas de carte Michelin. Personne pour vous dire « c'est par là, monsieur ». La mer est ronde, 360 degrés, vive la liberté. Mais comme disait Madame Mère, que l'on retrouve toujours, c'est la liberté, mais c'est la responsabilité. Non, je ne joue pas sur les mots, le message de la mer est le même que celui de Madame Mère. La mer, c'est le maximum de responsabilité dans la liberté, ou l'inverse. Tu vas où tu veux. 1 degré sur 360, mais c'est ton choix. Ne demande pas à ton voisin d'assumer à ta place. En mer, on n'a pas de voisin. Elle est le seul horizon où l'on ne puisse pas se défiler en prononçant les mots que Jean-François Degnaud haïssait particulièrement. Ce n'est pas mon problème. La mer, l'océan, l'horizon, la liberté, donc ce n'est pas un jeu, ni un sport, ni du tourisme. C'est une force morale, et c'est bien pourquoi elle est présente partout dans les livres de Jean-François Degnaud, même quand il ne parle pas d'elle. Lorsque dans « Survivre », son livre peut-être le plus profond et le plus grave, Jean-François Degnaud écrit cette phrase terrible. « Sarajevo, quand l'Europe a perdu son âme », c'est bien de la mer qu'il parle, de la morale de la mer. On avait la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, et on a oublié la responsabilité. Et tout s'enchaîne. On commence à comprendre pourquoi Jean-François Deniau détestait l'hôpital où il est si souvent allé, et même le jour de son élection à l'Académie française. L'hôpital où il a si souvent souffert et si souvent écrit en demandant aux infirmières de fixer ses perfusions dans le bras gauche pour qu'il puisse continuer à tenir sa plume. La chambre d'hôpital, ce n'est pas seulement son caractère impersonnel qui est détestable, c'est l'infantilisation du malade. Le malade n'est pas un malade, c'est un patient. Le vocabulaire de l'hôpital dit les choses comme elles sont. Patience, patience, ne bougez pas, ne décidez rien. Ce n'est pas à vous de décider. Vous êtes irresponsable au vrai sens du mot, non responsable, interdit de réponse. Et la suite vient d'elle-même, Jean-François Deniau étant ce qu'il est. Puisque les médecins, à sa sortie d'hôpital, lui ordonnent de poursuivre tout seul le travail d'infantilisation, surtout ne pas bouger, ne pas se fatiguer, éviter les décisions graves, eh bien, c'est entendu, Deniau fera le contraire, comme à 15 ans. La mer, traverser l'Atlantique, et si possible en solitaire. Je le cite, « Retrouver avec la barre et les voiles et le vent et la mer la liberté avec ses risques et ses contraintes choisies. Je ne cherchais pas à mourir, mais à survivre. Que faut-il faire? Que peut-on faire alors qu'on s'était juré à 20 ans d'être le meilleur parce qu'on le croyait? Je me trompe. On ne s'était pas promis de l'être, on l'était. On ne peut pas s'imaginer à la première place quand on aura 50 ans si à 20 ans on ne croit pas y être déjà. On est le meilleur. La vie n'a d'autre fonction que d'en apporter des preuves, d'en fournir des occasions. La vie, c'est le plateau. Le destin, c'est le valet de chambre qui porte le plateau. Alors que fait-on ? Si le valet a la main qui tremble, si le destin est un traître, et si par le truchement de la maladie imbécile, il vous réduit, vous, le premier, vous, le meilleur, à n'être plus qu'un corps souffrant dont on ôte des bouts de poumons, des morceaux de cœur, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, que faire si l'on ne peut plus se mouvoir sans s'accrocher au bras de quelqu'un? Et si chaque minute vécue entre deux pontages n'est plus qu'un sursis? Marcher dans les montagnes d'Afghanistan, dans les forêts d'Amazonie, dans les déserts de l'Érythrée, cela c'était bon quand on avait encore un peu plus d'un demi-poumon. Quand le destin aura fait clairement comprendre par le truchement de la maladie imbécile qu'il n'y a plus de place en ce monde pour y être le premier, que faire? Sinon, provoquer la mer, le vent, les vagues, la tempête, l'Atlantide, et leur crier « Je vais quand même être le premier à vous provoquer de cette manière. Personne ne vous a affronté avec la moitié d'un poumon. Personne, je suis le premier. Je suis le premier à être assez fou pour le faire, et si vous m'attaquez, vous, les vents, les vagues, la tempête, si vous coulez mon bateau, si vous me faites mourir, je serai encore le premier, car on parlera de moi dans le monde comme du premier qui ait osé se mesurer à la mer et à la provoquer. On parlera de moi comme du plus courageux, du plus intrépide et du plus fou. Et ce sera vrai. On dit cela, bien sûr, au bord des larmes.
Monsieur, Nous avons été nombreux ces jours-ci à nous presser au théâtre des Champs-Élysées pour écouter et pour voir l'armée de Lully. Nous vous devons, monsieur, ce grand plaisir. Sans vous, sans vos amis musiciens et musicologues, deux siècles de musique française et italienne seraient sans doute restés affaire de spécialistes. Très tôt, vous sûtes comprendre l'importance de Lully et de Rameau, de Couperin et de Monteverdi, apprécier les beautés de leurs œuvres que vous voulûtes faire partager au plus grand nombre. Mais je vais trop vite en besogne. Vous êtes un grand voyageur, vous l'avez été dès votre jeune âge et vous l'êtes toujours. Sans doute, votre famille de marins, aussi bien du côté maternel que du côté paternel, elle comprend plusieurs amiraux, y est pour quelque chose. Vous partagez avec Jean-François Deniaud, dont vous venez de prononcer un bel éloge, le goût de la mer. Je passe sur vos 5 ans à Gstaad, en Suisse, qui durent faire souffrir l'amoureux des grands larges. Vous y enseignez. Détail que vous m'avez confié, sans doute avez-vous souhaité me faire plaisir. Vous aimez faire plaisir. Votre premier cours à Gstaad, devant des jeunes filles de bonne famille venues de tous les horizons, fut consacré à Poussin. J'espère que vous ne l'avez pas qualifié de baroque. Ce mot que j'emploie ici pour la première fois et que j'utilise rarement et toujours à regret. Nous sommes en 1965. Vous venez de publier Le jeu de la pierre et de la foi, un livre consacré à l'art roman, préfacé par notre confrère Marcel Arlan. Vos années suisses vous ont donné des fourmis dans les jambes et vous voilà parti avec votre famille pour l'Australie, à nouveau pour 5 ans, à la Flinders University d'Adélaïde. Certes, vous y enseignez le français en français, mais vous êtes également président de l'Alliance française. Vous y ouvrez en 1968 une maison de France, mais déjà la musique est votre passion. Vous créez un ensemble instrumental et vocal consacré à la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, ce que l'on appelait alors la musique ancienne, et vous montez avec vos étudiants de l'université, sinon une première mondiale, du moins une première australienne, l'Armide de Lully. Il vous faudra, mesdames et messieurs, mes chers confrères, patiemment attendre l'impression de ma réponse pour satisfaire votre curiosité. Ai-je écrit Lully avec un I ou avec un Y? Cet I et cet Y furent longtemps le nez de Cléopâtre des musicologues. Ils cachent en réalité une querelle qui concerne la musique mais aussi d'autres arts. Poussin peintre français, Poussin peintre romain, dont on s'étonne en ces temps d'Europe qu'il n'ait rien perdu de son actualité. Adélaïde, sans nul doute, c'est très bien, mais l'envie de bouger vous reprend. L'Asie du Sud-Est est toute proche. Vous voyagez, vous partez pour Sumatra, Java, Bali, le Cambodge surtout. Ces danses traditionnelles, ces chants, ces musiques vous fascinent. Vous ramenez du Cambodge un livre paru en 1971 dans la collection Musique de tous les temps, un livre devenu rare et dont vous êtes fier. J'ai consulté votre exemplaire. Vous avez connu le Cambodge d'avant les Khmers rouges. Votre livre est illustré de belles photographies en noir et blanc. Vous êtes discret sur leur auteur, elles sont en grande partie de vous. L'ouvrage est collectif. Vous en avez écrit l'introduction, qu'on lit aujourd'hui avec nostalgie, et les chapitres consacrés, je vous cite, à l'éducation musicale des enfants dans un monastère et au ballet royal du Cambodge. Ce ballet royal, venu à plusieurs reprises à Paris et qui fit en son temps les délices de Rodin. Votre ambition pédagogique, constante dans votre carrière, est manifeste. Vous décrivez les instruments de musique cambodgiens que vous dessinez avec précision et grand soin en marge du texte. Vous dressez la liste des différentes formations orchestrales et chorégraphiques cambodgiennes alors en pratique. Le livre est accompagné d'un disque, un 45 tours. J'ai bien sûr voulu l'écouter. J'ai dû renoncer. Qui d'entre vous, mesdames et messieurs, possède aujourd'hui encore l'appareil qui permet d'écouter un 45 tours? De même que le Cambodge, les temps ont changé. J'aimerais décrire la photographie qui ouvre votre ouvrage et qui est de vous. J'en lis la légende. 5 heures du matin à Angkor Wat. Un de vos plus beaux souvenirs, m'avez-vous confié, est d'avoir admiré les temples khmers à l'aube et le même jour, au crépuscule, les pyramides de l'Égypte. Je ne connais pas de plus bel éloge de l'aviation et du décalage horaire. Vous n'avez pas cessé de voyager. Vous êtes toujours par mon et par vous, en Europe essentiellement, par amour pour la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, la musique française comme la musique italienne, votre musique, je me répète, que vous m'avez aidé à aimer, que vous avez partagé avec nous et dont vous fûtes et êtes toujours notre passeur par excellence, notre infatigable et meilleur ambassadeur. Si vous voyagez afin de présenter les œuvres que vous défendez, les musiciens que vous soutenez, vous avez, qui s'en étonnerait, votre port d'attache. Vous êtes né à Bordeaux, la plus belle ville de France. Vous avez vécu à Toulon. Vous y étiez, le beau titre, animateur culturel des jeunes ouvriers de l'Arsenal. Il jouait Shakespeare et Molière, mis en scène par vous. Vous dirigiez la chorale, puis ce fut Versailles et Paris. Je me dois de faire un bref retour en arrière, à vos années à Lyon en 1945-1946. Vous aviez été, je vous cite, embrigadé dans la chorale de l'abbé Séchaud, que vous appeliez avec humour Séchaud Pensa, qu'il dirigeait. Il nous faisait chanter Palestrina, Lassus et Monteverdi. Puis ce fut Neuilly et le lycée Pasteur. Vous avez employé vos loisirs, m'avez-vous dit, en séchant quelques cours du lycée, à copier à la bibliothèque du Conservatoire de Paris, rue de Madrid, le manuscrit de la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier. Il n'y avait pas alors de photocopie. Votre port d'attache, c'est aujourd'hui Senonche. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, vous vous êtes étonné que je connusse le nom de cette commune de quelques milliers d'habitants du département d'Eure-et-Loir, en Normandie, à la limite du Perche et de la Beauce. La raison que je vous expliquais en est simple. La chance, on dit parfois le hasard, a voulu que je fasse dans l'église de Senonche une de ces découvertes qui marquent la carrière de tout historien de l'art. Une de nos grandes joies consiste à découvrir, à redécouvrir des œuvres oubliées, disparues, cachées, inédites, des grands artistes du passé, à leur rendre, si possible, leur paternité. Les cas d'espèce sont légion. Un exemple les résume. Georges Latour, La Tour et le triomphe de l'histoire de l'art. Je ne reviendrai pas ici sur sa découverte qui n'a pas 100 ans, ou plutôt sur sa redécouverte, car l'artiste, s'il fut prestement oublié, connut de son vivant la célébrité. Comment expliquer cette résurrection ? L'on en connaît les diverses étapes et les principaux acteurs, et l'on sait le rôle des expositions consacrées à l'artiste. Il y a plus. Il y va de la responsabilité de l'historien de l'art de réhabiliter et bien souvent de sauver un passé qu'il a la charge de transmettre. Le visiteur de musée croit respectueusement, non sans quelque naïveté, ce qu'il lit sur le cartel d'un tableau. Il a raison et il a tort. Tel Titien s'est longtemps appelé Giorgione, le bon samaritain, le philosophe au livre ouvert, le prophète Isaïe, sont-ils bien de Rembrandt ou ne reviendraient-ils pas plutôt à l'un de ses élèves, à l'un de ses nombreux imitateurs? Rubens, ce tableau est-il intégralement de sa main? Quelle fut la participation de ses collaborateurs? Ce sont là quelques-unes des questions que tout historien de l'art se pose régulièrement. Le cartel prend parti. Il affirme une vérité qui parfois a mis longtemps à s'imposer. Le concert champêtre a pour plusieurs siècles porté le nom de Giorgione. Le philosophe au livre ouvert est vraisemblablement de Salomon Koenig. Le prophète Isaïe, sans doute d'Adrian van Ostade. Et l'on s'accorde aujourd'hui, après bien des hésitations, à réduire la participation des collaborateurs de Rubens à l'exécution de la vie de Marie de Médicis. Ce sont là les progrès d'une discipline, ces progrès qui ne nuisent en rien, bien au contraire, à notre plaisir esthétique, à notre délectation. L'œuvre d'art, souvent, ne parle pas d'elle-même. Le visiteur a besoin de béquilles, d'explications, d'un cartel, quitte à ce qu'il l'induise en erreur. L'érudition, cette érudition si souvent méprisée, fait vivre ou sait faire revivre les artistes. Une parenthèse, j'ai employé le terme de cartel et bientôt j'utiliserai celui de réserve de musée. Ces mots, dans leur acception aujourd'hui communément admise, ne figurent pas dans notre dictionnaire. Ah, mes chers musées, à ma chère histoire de l'art. Regagnons Senonche, votre Senonche. L'église de Senonche possède un chef-d'œuvre. Comment en ai-je eu connaissance ? Une amie conservateur m'en montra la photographie. Comment se l'était-elle procurée ? Je l'ignore. Tout de suite, avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir, un nom s'imposa. Il convenait bien sûr de vérifier sur place, sur pièce. Je me rendis à Senonche en 1979 par une belle après-midi de juin. L'église était lumineuse. L'œuvre, de grande taille, près de 2,50 m de haut, était bien de Federico Benković. D'origine dalmate, Benković est un des pères du second siècle d'or de la peinture vénitienne. Son influence sur Piazzetta, sur le jeune Tiepolo, surtout Giambattista, fut considérable. Le retable de ce nom, je regrette de ne pouvoir en projeter ici l'image, nous montre Saint-André sur la croix, accompagné de Saint-Barthélemy, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Lucie et Sainte-Apolline, tous aisément reconnaissables grâce à leurs attributs, le couteau, les tenailles, les yeux arrachés posés sur un plateau, le nez busqué. Sur la droite de la toile, on distingue le pied et la jambe d'une idole fracassée. Mais pourquoi m'interrogerez-vous, Benkovitch ? Je vous répondrai parce que ça se voit. Comment propose-t-on une attribution ? Il y a la pratique, les musées, les expositions, les salles de vente, à mon cher vieil hôtel Drouot, les puces, la consultation quotidienne de photographies de tableaux, de préférence en noir et blanc, les livres d'histoire de l'art, à ne pas confondre avec les livres d'art, les catalogues scientifiques et les catalogues raisonnés, et il y a ce qu'on appelle d'un terme quelque peu prétentieux, l'œil. Je vous dois une explication. L'œil, c'est le don qu'ont certains de prononcer face à une œuvre le juste nom, de faire le bon diagnostic. Je précise que ce talent n'est pas universel. Ceux qui le possèdent ne l'exercent avec pertinence que pour certains artistes, certaines périodes, certaines disciplines. On peut avoir l'oreille absolue pour les tableaux de Poussin et pour les dessins de Watteau et ne pas savoir distinguer une commode de Boulle, un meuble de Carlin, de son pitoyable pastiche du XIXe siècle. Cette triste constatation vaut pour les plus grands historiens de l'art du passé. Le jugement de Bernard Berenson, Bibi pour ses nombreux intimes, sur les dessins florentins de la Renaissance était impeccable. Son avis sur les tableaux de Rembrandt n'avait aucun poids. On doit à Roberto Longhi la résurrection de Piero della Francesca et du Caravage, son opinion sur l'authenticité d'un tableau de Manet ou de Matisse importe peu. Revenons une dernière fois à ce nom chez Benkovitch. Pierre-Jean Mariette est resté célèbre pour son exceptionnelle collection de dessins, 9000 feuilles de toutes les écoles, une des plus parfaites qui jamais ait été constituée. Mariette a également laissé de fort utiles notes sur quelques artistes du passé, comme sur ses contemporains. Elles furent publiées au XIXe siècle. Il écrivait, je le cite, « Il y a dans l'église de la Madone del Piombo, à Bologne, un tableau de ce maître, Benkovitch, qu'on dit être fort beau. Les principaux guides de Bologne du XVIIIe siècle le décrivent saint par saint. Il s'agit sans nul doute du tableau de Senonches. Ce qui n'était qu'une intuition, disons une attribution, s'est affirmé en certitude. La grande composition commandée pour une église de Bologne mais peinte à Venise, ce qui ne manquera pas de faire sourire Philippe Bossan, il sourit toujours, est aujourd'hui présentée dans la mairie de Senonches. Elle a été restaurée et exposée à plusieurs reprises, notamment à Venise, à l'occasion de l'exposition consacrée à Benkovitch, dont elle était le clou. Par quel chemin de traverse a-t-elle gagné ce nom ? Je l'ignore. Que je sache, on n'a pas à ce jour précisé ses pérégrinations depuis 1792 et l'église de la Madonna del Piombo de Bologne et l'église Notre-Dame de Senonches. Comment définir le talent de Benkovitch ? En quoi a-t-il pu ouvrir les yeux du jeune Tiepolo ? Il aime les formes anguleuses et allongées, les couleurs recherchées, en l'occurrence des roses fanées, des prunes, des verts glauques, les plis cassés, mais surtout les éclairages brutaux qui dramatisent les expressions des visages. Partant de la réunion banale de cinq saints, Benkovitch a créé une page ténébreuse, brûlante, lyrique et d'un grand souffle. C'est à dessein, monsieur, mais je vous taquine que je n'ai pas employé le mot baroque. Baroque, nous y voici. Le mot figure dans les titres de trois de vos ouvrages. Vous avez dit baroque, manger baroque et rester mince, et tout récemment, passage de la Renaissance au baroque. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime guère ce mot. Je sais bien que vous n'êtes pas seul dans notre compagnie à l'employer et vous venez renforcer le camp de ceux, Dominique Fernandez en tête, qui s'en sont fait les défenseurs. Je n'aime pas ce mot et tente autant que faire se peut d'en éviter l'usage. En peinture, il a perdu tout sens, ou du moins, on l'a mis à toutes les sauces. Si vous me pardonnez l'image, nous évoquerons bientôt vos passions culinaires. On l'a utilisé à tout propos pour les artistes qui n'ont rien en commun, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, le Caravage et Rubens, Bernin et Velázquez, Rembrandt et Poussin. Ce mot, vous l'avez défendu avec humour. Je vous cite. Comment ce terme d'histoire de l'art et particulièrement de l'architecture a-t-il été parachuté au milieu des doubles croches au point d'y semer la zizanie ? La situation est à ce point confuse qu'il serait inutile de lancer un concours, le gagnant doté de son pesant de croches en chocolat, pour trouver un terme de remplacement, car tous ceux qui emploient ce mot et l'appliquent ne veulent pas dire la même chose, ou plus précisément, veulent ne pas dire la même chose. Mais ce mot, vous l'avez justifié avec sincérité, avec cette conviction souriante, cette allégresse non dénuée d'ironie qui vous caractérise. Je vous redonne la parole. En revanche, voyez comment vont les choses, il n'est pas absolument exclu que Mozart, jouer avec des violons montés à l'ancienne, des flûtes hautes terres et des clarinettes d'époque, ne soit pas qualifié de baroque, tout classique qu'il est. Pour ceux qui l'ignoreraient, les hautes terres sont une famille de facteurs et d'interprètes du XVIIIe siècle. Ils ont donné leur nom à des flûtes renommées pour leur son. Je reprends. Nous sommes alors en pleine confusion linguistique et peut-être mentale. Comment, monsieur, ne pas vous approuver ? Vous donnez vous-même des verges pour vous faire fouetter. Vous aviez sur France Musique osé qualifier Jean-Sébastien Bach de musicien baroque, ce qui vous valut d'amères reproches. Vous voulûtes vous racheter. Je vous cite à nouveau. La vérité est que nous n'avons pas de mots pour indiquer à la fois le repère chronologique et les tendances dominantes de la musique et de l'art entre 1600 et 1750. Deux voies avec un X, oserais-je dire, s'ouvrent à moi. La première consisterait à proposer à mon tour la définition parfaite du terme. Vous vous en êtes vous-même, monsieur, courageusement, avec brio et souvent avec bonheur. Livré à l'exercice dans votre, vous avez dit, baroque, dont je rappelle le sous-titre « Musique du passé, pratique d'aujourd'hui ». Vous avez tenté de sortir de cette ornière, de cette fondrière, de ce marécage. Je rappellerai la définition de notre dictionnaire dans son édition de 1694. Baroque, adjectif, se dit seulement des perles qui sont d'une rondeur imparfaite. Exemple, un collier de perles baroques. Si seulement nous en étions restés là. À la vérité, le terme baroque couvre tant de choses différentes que l'on s'y perd. Son sens varie considérablement selon les pays, les langues, les arts et les dates qu'on lui assigne. Le mot allemand « baroque » ne peut se traduire par « baroque ». Il a donné lieu à de savantes exégèses qui ont vu s'affronter quelques grands noms de l'histoire de l'art et de la pensée. Jakob Burckhardt, Heinrich Wölfflin, Alois Riegel, Eugenio Dors, Benedetto Croce, Werner Weisbach, Otto Kurz, Henri Faucillon, Victor Lucien Tapier, bien d'autres. Il n'est pas jusqu'à Anthony Blunt, dont la notoriété, hélas, repose plus sur ses talents d'espion que sur ses irremplaçables travaux sur Poussin, qui ne se soit fourvoyé dans cette galère. Les essais de deux de mes collègues, Claude Mignot et à plusieurs occasions Alain Méreau, dans son récent « Généalogie du baroque », me paraissent avoir, pour dire les choses simplement, remis avec sagesse les pendules à l'heure. Je me dois de les citer. Le mot « baroque » a perdu toute précision et peut-être toute véritable existence. Devenu commodité de langage, il a été vidé de sa substance. Et de mentionner l'exemple de Versailles, ce Versailles qui vous tient à cœur, ce Versailles classique ou Versailles baroque. J'en aurais fini avec baroque en évoquant ces baroqueux, ces musiciens baroqueux qui vous sont chers. Le mot est lui aussi absent de notre dictionnaire. Il vous reviendra de l'y faire entrer. Il vous faudra l'attendre, monsieur, quelques années. Des deux voix qui s'étaient offertes à moi, j'emprunte avec soulagement la seconde, celle de la musique. La musique est votre chant. Je n'ose écrire votre chant. Vous devez sa découverte à votre mère. Je vous lis. Ma mère était une bonne pianiste amateur. Elle faisait dans sa jeunesse ses 5 à 6 heures de piano par jour. Elle avait travaillé avec Ricardo Vénès et joué Granados et Albéniz, mais surtout Bach, ce qui était encore rare dans les années 1920. Mes plus beaux souvenirs d'adolescence, ce sont les soirées où elle jouait Bach et aussi César Franck, qui était l'arrière-grand-oncle de mes cousins et le fétiche de la famille. Vous avez consacré aux musiciens que vous aimez des monographies essentielles. Couperin, votre préféré, en 1980, Rameau en 83, Lully en 92, il deviendra Lully avec un Y à la page 237 de votre ouvrage, plus récemment Monteverdi, 2002 et 2003. Je vous cite à nouveau. Chaque été, je faisais une randonnée solitaire, sac au dos. Et ne voilà-t-il pas que je me suis trouvé un jour, par pur hasard, à Aix-en-Provence, en plein festival, que j'ai lu sur les affiches Monteverdi, l'Orfeo et la date, ce soir-là. Impulsion subite, je me suis dit « j'y vais ». J'ai acheté un billet au dernier rang, comme l'imposait ma bourse modeste. Je n'avais jamais vu d'opéra, je n'étais jamais entré dans un théâtre lyrique, et je me suis trouvé dans un lieu plus émouvant qu'un vrai théâtre, par ce soir d'été, à l'Archevêché, face à Christiane et à Pierre en Eurydice et à Jeanne Berbier en Messaggiera. Le coup de foudre, la découverte d'une musique qui bouge, qui vit, qui pleure, qui danse. L'opéra, c'était ça. Vous avez voulu faire connaître la musique que vous aimez. Vous avez fondé en 1986 le Centre de musique baroque de Versailles, dont vous serez le conseiller artistique de 1987 à 1996. Il faisait suite à l'Institut de musique et de danse ancienne. Vous avez créé en 1995 le Centre des arts de la scène des XVIIe et XVIIIe siècles qui associait chanteurs, comédiens et danseurs. Vous vous êtes allié à de nombreux musiciens et chefs d'orchestre qui aujourd'hui ont tenu à vous honorer. William Christie, Philippe Hervègue, Gustave Léonard, j'aimerais les citer tous. Vous créez des ensembles, mais vous ne vous en cachez pas, vous auriez voulu être chef d'orchestre, chef de chœur. Vous jouez de la flûte, cette flûte qui tient une place importante dans votre roman « L'archéologue ». Souvent, vous composez des concerts, vous en bâtissez les programmes, vous en choisissez les interprètes, les musiciens, les chanteurs, le chef d'orchestre, le batteur de musique, comme on disait autrefois. Vous décidez du lieu. En 1994, Pierre-Jean Rémy, Jean-Pierre Engrémy, il écrit Lully avec un Y, qui dirigeait la Villa Médicis, notre Académie de France à Rome, vous proposa d'organiser un concert de votre choix. Vous y apportâtes le soin que l'on vous connaît. Chantez Howard Crowe et Isabelle Desrochers, un Américain et une Canadienne que nous avons entendu avant-hier. Tout paraissait au point. Nous étions en juillet. Il faisait chaud, très chaud. On décida de donner le concert en plein air, sous la loggia, la fameuse loggia de la Villa Médici. À 21h30 précise, les premières notes retentirent. Soudain, à 21h40, un hurlement épouvantable, un cri de joie s'éleva des fenêtres voisines, de toutes les fenêtres de Rome. L'Italie venait de marquer son premier but au Mondial. L'histoire ne dit pas si ce but fut marqué contre la France. Votre vie a été consacrée à la musique et à faire connaître ces musiciens italiens et français des XVIIe et XVIIIe siècles, un XIXe siècle paresseux et sûr de lui avait négligé et trop rapidement rayé de la carte. Vous y avez réussi. Plusieurs générations vous en savent gré. La bataille est aujourd'hui gagnée. Il suffit d'ouvrir la radio France Musique, Radio Classique, mais aussi les chaînes étrangères, l'admirable Filodiffusione italienne par exemple, pour constater votre triomphe. La radio a été votre instrument de travail privilégié. À combien d'heures d'antenne avez-vous eu droit ? Le calcul mériterait d'être fait. Vous figureriez, j'en suis certain, dans le peloton de tête. Depuis 1974 et jusqu'en 2006, vous avez été chaque jour ou presque à l'antenne. Qui ne se souvient de vos matins des musiciens, 3 heures d'affilée, seul devant le micro, du lundi au vendredi, seul avec la musique, avec votre musique. Votre musique. Je vous ai prié de me proposer le programme de votre choix, votre concert idéal. Le voici. Jean-Sébastien Bach, un ou deux préludes et fugues du clavecin bien tempéré, interprété par Gustave Léonard, en souvenir, nous l'avons deviné, de votre mère. Les ombres errantes, les idées heureuses de François Couperin, ce Couperin que vous aimez comme un frère de lait, avec Noël Spiette au clavecin. Monteverdi, l'Orfeo, dirigé par Gabriel Garrido, et les madrigaux chantés par l'ensemble Concerto Italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini, puis César Franck, le vieil enregistrement d'Alfred Cortot, et enfin la cathédrale engloutie de Claude Debussy, interprétée par ce même Alfred Cortot ou Sviatoslav Richter. Vous m'envoyez navré, monsieur, ce concert de vos rêves, il vous faut, mesdames et messieurs, le faire sonner dans votre tête, l'imaginer, le recréer en silence, et au lieu de l'écouter, m'écouter. Pardonnez-moi une nouvelle parenthèse et de revenir à la Villa Médicis. Elle joue un rôle essentiel dans les relations artistiques entre la France et l'Italie. Elle est capitale pour tout jeune historien de l'art. Depuis Malraux, les meilleurs d'entre eux y ont eu accès. Ils y découvrent Rome, ses richesses illimitées. Ils y font connaissance avec leurs jeunes collègues allemands, américains, italiens. Surtout, ils y font leurs premières armes. Un exemple parmi bien d'autres. Notre confrère de l'Académie des Beaux-Arts et mon successeur à la tête du Louvre, Henri Loirette, m'assista lorsque Balthus, à la veille de son départ à la retraite, me demanda d'organiser à la Villa une exposition Poussin, ce Poussin qu'il vénérait. Ces historiens de l'art, on voudrait aujourd'hui en limiter le nombre. Limiter, en l'occurrence, est synonyme de diminuer, parfois même supprimer leur section. L'avenir de notre profession serait alors définitivement compromis. J'aimerais consacrer quelques instants à vos compositeurs favoris. Le profane que je suis choisirait, je le confesse, Bayreuth plutôt que les concerts spirituels. Et tout d'abord Rameau. Je suis de ceux qui, à Rameau, préfèrent son neveu, mais grâce à vous, à votre Rameau de A à Z, grâce également au beau texte de notre confrère Claude Lévi-Strauss en écoutant Rameau, mes oreilles se sont ouvertes. Vous chérissez François Couperin. Pour vous, il est le Watteau de la musique. Ils sont contemporains, mais ne se sont sans doute pas connus. Ils ont, l'un et l'autre, rompu avec leur temps. Watteau tourne le dos à Lebrun et à Pierre Mignard, il aborde de nouveaux sujets, la fête galante pour le dire d'un mot, il accorde une place essentielle au théâtre, à la mode, à la pastorale, aux ambiguïtés des sentiments amoureux, surtout. Son monde confond rêve et réalité, une réalité souvent poignante. Il dessine aux trois crayons comme personne avant ni après lui, joueur de basson et claveciniste, flûtiste et oboïste. Comme chez Mozart, sous une apparente gaieté, la mélancolie et la nostalgie nous serrent le cœur. Couperin, Watteau, Mozart, les arts n'évoluent pas du même pas. Les correspondances trop littérales, je n'y crois pas, s'exclamait tout récemment Pierre Boulez. Monteverdi ne m'a plus quitté depuis Aix-en-Provence. Même si j'écrivais sur Lully et sur Rameau, c'est lui qui était au cœur de la chose. On entend les inflexions de votre voix. Je ne dis pas que j'ai vu tous les Orfeo, mais beaucoup. Je suis allé trois fois à Zurich pour l'entendre dirigé par Arnoncourt et le voir mis en scène par Jean-Pierre Ponel, à Lyon avec Claire Gibault, à Paris avec Gardinaire, puis Charles Ravier, à Aix avec Corboz, à Anvers avec Hervègue, à Nancy avec Minkowski, à Ambronay et à Beaune avec Garrido, à Tourcoing avec Malgoire, mais j'ai manqué Saval. Avouerai-je que je ne l'ai pas entendu par René Jacobs parce que je n'avais pas envie de voir la mise en scène de Trista Brown. Je rougis, mais je persévère. Orphée, c'est aussi Poussin, ce Poussin dont José Cabanis sut si bien parler lorsqu'il me reçut ici même il y a tout juste 12 ans, le tableau de Poussin du Louvre, dont la reproduction illustre la couverture de votre chant d'Orphée et à qui Michel Léon a consacré un bel essai au titre provocateur « Orphée aimait-il Eurydice ?» Vous persévérez. Ces mots sonneront familiers aux lecteurs de votre Malsaine, un livre de colère selon votre expression, qui vous a valu quelques inimitiés, je ne vous sais pas d'ennemis. Un livre sans concession, un chant d'amour en faveur de la musique et des voix, écrasé si souvent par des mises en scène prétentieuses, surinterprétatives, et qui voudraient faire oublier à leur seul profil l'essentiel, la musique et les voix. On vous dit distrait, je ne vous connaissais pas, exaspéré. Monteverdi est enterré au Frari, dans la capelle des Milanesi. En permanence, une rose fraîche est posée sur sa tombe. J'ignore l'auteur de ce geste touchant. Je vous ai longtemps soupçonné. De la musique à la gastronomie, il n'y a qu'un pas. Vous l'avez allègrement franchi. Vous n'êtes pas le premier. Déjà Balzac s'était livré à l'exercice dans Gambara, dont le titre ne laisse rien présager. Vos titres, eux, sont sans ambiguïté. Manger baroque et rester mince, prélude, fougasse et variation, nouvelle recette baroque. La table des matières, que vous intitulez joliment « table des mets », mérite que l'on s'y attarde. Elle ouvre l'appétit. J'en signale quelques rubriques. Le coq au Riesling de Jean-Claude Magloire, le potage d'artichaut de William Christie, et vais vous lire une recette à laquelle vous tenez, car vous en êtes l'inventeur. Il s'agit de la recette de la soupe au potiron. Préparez un kilo de potiron en enlevant sa peau, en le détaillant par petits morceaux, faites chauffer 2 cuillères d'huile d'olive dans une grande casserole, faire rissoler le potiron sur feu vif afin que les morceaux caramélisent un peu. Cette opération peut durer 5 bonnes minutes. Ajoutez 2 gros oignons, hachés menus ainsi que 2 gousses d'ail et versez 1,5 litre de bouillon de poule préparé à base d'une tablette de bouillon ou un vrai bouillon. Laissez cuire 1/4 d'heure sur feu modéré jusqu'à ce que le potiron soit cuit. Passez liquide et morceaux dans un moulin à légumes. Faites ramollir une poignée de cèpes secs dans un peu d'eau chaude. Quand ils sont tendres, coupez-les en petits morceaux et jetez-le avec leur eau. Laissez mijoter 10 minutes en réduisant un peu ou au contraire en ajoutant de l'eau afin d'obtenir la consistance désirée. Salez et poivrez. Avant de servir, enrichissez la soupe d'une bonne cuillerée d'huile d'olive et de crème. Servir avec quelques croûtons frits et du parmesan râpé. Vous nous apprenez que les musiciens aiment faire bonne chère et sont d'excellents cuisiniers. Pour avoir vécu, je vous cite, 30 ans au milieu des flûtistes et des joueurs de viol de gambe, vous avez pu composer, le mot me paraît bienvenu, à l'aide des recettes favorites de vos amis musiciens, votre manger baroque. Votre découverte de Monteverdi nous vaut une belle liste de recettes de mantoue, le risotto aux grenouilles et cresson, les tortelli di zucca à la citrouille, que sais-je, pour connaître mantoue et ses ressources gastronomiques. Je ne peux que m'incliner devant votre choix, vos choix. S'il vous reste quelque temps à mantoue entre 2 repas, n'hésitez pas, il y a Léon Battista Alberti et Giulio Romano, Mantegna et Rubens, sans oublier Ovid. Il y a Verdi, le Verdi de Rigoletto, Verdi qui n'aimait pas Monteverdi, à Mantoue, on ne sait où, le 24 février 1607, une date sacrée pour vous, votre 25 février 1830, votre 29 mai 1913, se donner la première d'Orfeo, le 24 février 2007, pour son 4e centenaire à Mantoue, où vous écoutiez l'Orfeo. Vous êtes un romancier tardvenu. Dès votre premier roman, Le Biographe, 1978, vous recevez le prix Ève de la Croix de l'Académie française. Suivent l'archéologue, La Belle au Bois, puis Héloïse, qui vous vaudra notre grand prix du roman, un an avant que Frédéric Vitoux ne l'obtienne. Stradella est une biographie romancée de ce compositeur de génie, longtemps oublié et par ailleurs intrépide aventurier. Vous l'avouez, non sans ingénuité, si je dis la vérité, personne ne me croira, et si j'invente, personne ne s'en apercevra. Il n'y a donc aucun inconvénient à avouer avant de tricher. Où en étais-je vient de paraître, j'aimerais cependant m'attarder sur votre rendez-vous de Venise, publié en 2003, que j'ai particulièrement aimé. Je ne voudrais pas oublier de mentionner que vous fûtes, en 1973-1974, le secrétaire de Madame Romain Rolland, la veuve de l'illustre prix Nobel de littérature de 1915. Illustre, mais hélas aujourd'hui encore, au purgatoire, avec qui vous partagez un amour absolu pour la musique, même si Beethoven n'a pas sa place dans le panthéon de vos compositeurs. Je rappellerai bien sûr son Jean-Christophe, mais également le titre de son doctorat, soutenu en 1895, « Les origines du théâtre lyrique moderne, histoire de l'opéra avant Lully et Scarlatti, Lully avec un i ». C'était, m'avez-vous dit, la première thèse en Sorbonne sur la musique. J'aime votre rendez-vous de Venise pour bien des raisons. À votre habitude, vous promenez votre lecteur, vous le promenez dans le temps et dans l'espace. Vous pratiquez le double, le triple récit que vous tricotez habilement afin de ménager vos effets. Vous l'entrelardez à merveille. Je l'aime à cause de Venise, je l'aime parce que le héros, ou plutôt les héros de votre livre sont des historiens de l'art. Je l'aime enfin parce que votre roman d'amour se termine bien, ce qui aujourd'hui n'est plus à la mode. Je l'aime aussi parce que le mot baroque n'apparaît pas avant la page 108, parce que vous mentionnez le nom de Poussin, enfin parce que Wagner, dans une phrase ambiguë sur l'âme allemande, y fait une brève apparition, alors que ni Monteverdi ni Rameau ne sont cités. Et comment aurais-je pu résister aux deux pages que vous consacrez à Chardin ? Je vous laisse dire. Ah, je vous revois, oncle Charles. Indéfiniment, vous me parliez du bleu Chardin. Vous dissertiez sur la manière dont ce vieux bonhomme, avec ses besicles et sa toque blanche, étale son bleu et le fait fondre dans tout l'espace de son tableau. Vous me disiez, regardez Pierre, il y a du bleu partout, jusque dans le fond brun, jusque dans la joue rose de la maîtresse d'école, jusque dans ses cheveux blonds. Bien vu. Votre roman s'assemble autour de 5 personnages, si l'on oublie la servante au beau nom de Mariette. Il y a d'abord Venise. Laissez-moi vous faire une confidence. Vous n'êtes pas le premier romancier de l'Académie à avoir déclaré votre amour pour Venise. Je me tourne vers nos confrères et n'en compte pas moins de 12, sans oublier notre dernier élu, Jean Clerc, qui partage avec vous une passion pour la cité des Doges. Tiendrait difficilement sous la coupole une bibliothèque des ouvrages de nos confrères consacrés à Venise. Il serait temps que nous élisions un romancier qui la déteste. Vous la décrivez avec sobriété, sans lyrisme, en évitant ce qui n'est pas aisé, les poncifs, et vous consacrez à ces peintres quelques passages bienvenus. Giovanni Bellini et les Madones de l'Accademia, Antonello da Messine, le Tintoret, Giambattista Tiepolo, son élément célèbre, déclare votre héros, compte parmi vos favoris. Vous, ou du moins votre héroïne, comme le guide Michelin, leur donnez des étoiles, sous forme de oui, répétées une, deux ou trois fois. Ces étoiles que si peu de restaurants de Venise méritent. L'oncle Charles Millot, historien de l'art, est mort depuis 5 ans. Il n'aime que la peinture. Membre de l'Institut, il porte en permanence une écharpe blanche. Homme d'une parfaite urbanité, grand utilisateur de l'imparfait du subjonctif, sa science est infinie, sa mémoire infaillible. Il est bon, touchant, raide sans doute, pédant parfois, et quelque peu, c'est un euphémisme, maniaque. Il s'intéresse tout spécialement aux portraits peints qu'il sait ressusciter en s'appuyant sur les indices de leur visage et de leur habillement. Il les imagine en vie jusqu'à retrouver la sonorité exacte de leur voix, pour reprendre les mots que Jacqueline de Repouilly prononçait lors de la récente remise de votre Légion d'honneur à Versailles. Son neveu, Pierre Voisin, a hérité de sa maison aux confins de la Brie. Il est en quelque sorte, en plus jeune, son double, son successeur, son continuateur, un maniaque en second. Les dessins de Sébastien Del Piombo font l'objet de ses recherches. Il n'y avait pas de femme dans la vie de mon oncle, pensait-il, et voici qu'il découvre un carnet secret, un carnet intime destiné à disparaître. Dans sa maturité, l'oncle a connu l'amour à Venise, l'amour fou. La jeune femme, Judith, voulait un enfant de lui. Il le lui refuse. Vous ne nous avez guère habitué, monsieur, vous le pudique Philippe Baussan, aux quelques lignes assez crues que je lis. Quand je disais non en regardant Judith en larmes, quand je brisais volontairement notre élan amoureux, non, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas avoir un enfant à cause de mon âge, quand j'interrompais son plaisir et que je me retirais d'elle par un effort terrible de ma volonté, qu'est-ce que je faisais ? Charles abandonne Judith, il est désespéré. As-tu raté ta vie, se demande-t-il. Je ne retournerai jamais à Venise. Pierre est atterré, il n'a rien vu, il n'a rien soupçonné du grand secret de son oncle. Comment peut-on être à ce point aveugle? Judith est d'origine ukrainienne, Judith Vicherova. On la devine élève de Charles Millot, elle est belle, entière, passionnée, imprévisible, irrésistible et zézée délicieusement. Je veux un enfant de toi. J'interromps ici mon récit, c'est bien entendu le récit de Philippe Bossan, pour à mon tour faire preuve de pédanterie. Charles Millot est-il l'historien de l'art à l'impeccable érudition que nous décrit son neveu? Se serait-il en ce domaine, dans ce domaine également, laissé aveugler? Je l'ai pris à trois reprises en flagrant délit d'erreur. Page 126, 130 et 132, Charles ou Pierre nous parle à propos d'un tableau anonyme du début du XVIe siècle du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, représentant une petite fille à l'oiseau mort, de bleu de Prusse. « Monsieur le professeur Millot, le bleu de Prusse est une couleur chimique dont l'invention remonte au plus tôt, au début du XVIIIe siècle. Vous connaissez la bruyante fontaine des fleuves du Bernin, place Navone à Rome. Je cite, avec ses géants barbus, se faisant des signaux avec leurs mains. L'un d'eux, disait mon oncle en riant, pour proclamer l'horreur que lui inspire la façade Sainte-Agnès, parce que le Bernin haïssait Borromini, son rival. Certes, les deux plus grands architectes de leur siècle ne s'appréciaient guère, mais lorsque le Bernin fit élever sa magnifique fontaine, la façade de Borromini n'existait pas encore. Plus grave, page 30 et suivante, 37, 41, 42 et 105, le portrait de Simonetta Vespucci du musée Condé à Chantilly. Charles Millot paraît hésiter sur l'auteur du tableau, Piero di Cosimo ou Antonio del Pollaiolo. L'attribution à Piero di Cosimo n'est aujourd'hui plus discutée. En revanche, Charles Millot semble accepter l'identité du modèle, cette Simonetta Vespucci, maîtresse de Julien de Médicis, morte en 1476, à l'âge de 23 ans. Écoutons l'oncle Charles. Observez sa bouche, regardez bien ses lèvres, Pierre. Elles sont si justement dessinées, avec une précision si merveilleusement exacte, que vous pouvez reconnaître le son de sa voix. Je peux vous affirmer que bien qu'elle fût génoise, elle prononçait l'italien avec le délicieux défaut de langue qu'on entend ici à Venise. Vous pourriez l'entendre reciter les petits poèmes amoureux qu'écrivait pour elle Laurent de Médicis. Je n'ignore pas que Charles Millot, en observant la bouche de Simonetta Vespucci, entendait sa chère Judith. Mais l'oncle Charles s'égare. Le tableau de Chantilly ne peut en aucun cas représenter Simonetta Vespucci, et ceci pour de multiples raisons. Je n'en citerai qu'une. Comment imaginer un seul instant qu'une jeune femme mariée de la meilleure société se laisse peindre la poitrine nue? Même l'hypothèse d'un portrait allégorique posthume, en fait, Piero di Cosimo n'avait pas 15 ans à la mort de Simonetta Vespucci, n'est pas recevable. Absente, indifférente, la prétendue Simonetta Vespucci regarde loin. Son délicat visage se détache devant des nuages sombres. Sombres pour mieux mettre en relief son profil, noir par quelque allusion funèbre. Un arbre mort sur la gauche étonne dans ce paysage de collines verdoyantes. La savante coiffure de la jeune femme en a tressée et ornée de perles et de chaînettes d'or. Autour de son long cou s'enroule un aspic dont on voit la langue et qui se mord la queue. Cet aspic est-il vivant? Est-ce un bijou? Son ombre se détache sur la chair blanche de la poitrine nue de l'héroïne, dont les seins aux formes parfaites, vues de trois quarts, ont beaucoup fait pour la célébrité du tableau. Reste l'inscription en lettres capitales « Simonetta Iannensis Vespucci ». Elle est en fait tardive et a été portée en bas du tableau bien après son exécution. Vasari, dans sa Vita de Piero di Cosimo, décrit chez son ami Francesco da Sangallo una testa bellissima di Cléopâtre con un aspico in volto intorno al collo. Serait-ce le tableau de Chantilly? Rien ne l'assure. Les iconologues y reconnaîtraient plutôt une allégorie de la beauté parfaite que l'on atteint qu'au-delà de la mort, symbolisée par le serpent qui se mord la queue. C'est grâce à un conservateur du Louvre, Frédéric Rézé, que le duc d'Aumale put faire l'acquisition de ce fascinant chef-d'œuvre. Les collections de peintures et de dessins de Chantilly sont les secondes de France, les troisièmes assurent les élateurs de Versailles, après celles du Louvre, bien sûr. Souhaitons qu'à l'occasion de l'indispensable et providentielle restauration du château et de ses jardins, ces collections ne soient pas oubliées. Pour être mieux connues, ces immenses richesses mériteraient un personnel scientifique bien plus nombreux et des publications savantes qui font toujours défaut. Il est temps, monsieur, de revenir à votre roman, qui n'a rien, j'en conviens, d'un nouveau roman. L'oncle Charles a quitté Judith, Charles est mort, quelques années ont passé, Pierre se rend un colloque d'historien de l'art à l'université de Rome. Il lui est facile de reconnaître en l'une des congressistes, Judith Desgranges, la Judith de son oncle. Elle satine toujours ses S. Il marivaude, elle lui présente sa fille, Sarah. C'est le portrait de sa mère, c'est l'amour fou. Elle s'installe dans la vieille maison de l'oncle Charles avec sa deux chevaux vertes, son chat, son désordre sauvage, ses horaires peu matinaux, son charme irrésistible. Elle bouleverse la maison à laquelle Pierre n'avait pas touché. Elle va jusqu'à détériorer la syntaxe parfaite que Pierre avait héritée de son oncle. Au bout de 48 jours, Sarah s'enfuit au volant de sa deux chevaux. Pierre est désespéré, elle revient, elle est enceinte. Il s'appellera Charles, ce que l'oncle Charles a raté. « Nous, on l'a fait », déclare-t-elle. Elle se chargera de l'aérer. Je vous l'avais annoncé, le beau roman de Philippe Baussan s'achève bien. Le congrès de Rome vous est prétexte, monsieur, pour ironiser gentiment sur la nouvelle histoire de l'art et son jargon. Comme je vous approuve, cette constellation épistémologique, ce paradigme perceptif sont insupportables. J'attendais beaucoup, monsieur, de la réponse à la question de la jeune Sarah. Un chef-d'œuvre, c'est quoi ? Déjà, dans votre couperin, vous vous interrogiez, qu'est-ce qu'un génie ? J'attendais beaucoup, mais la réponse n'est pas venue. Pouvait-elle venir ? Un dernier mot sur votre rendez-vous de Venise qui m'a longtemps retenu. Nous sommes cette fois à Rome, à l'église Sant'Agostino, devant la Madone des pèlerins du Caravage. Il y a des peintures qu'on admire et d'autres qui touchent. Celle-là fait les deux à la fois. Je me sens devant elle un peu comme la vieille femme qu'on voit au premier plan à genoux devant la Madone avec ses pieds sales. Elle a l'air si heureuse avec son sourire de vieille et ses pieds sales. Moi, je suis en adoration exactement comme elle. Bravo, Judith. Merci, Philippe. L'heure est venue de conclure. Je citerai Paul Valéry. Dans une lettre récemment publiée, adressée à son frère Jules, et de quelques années postérieures à son élection ici même, quant à moi, je crois que si c'était à refaire, je ne me présenterais pas à l'Académie. Je l'ai fait par considération pour les miens, et les enfants en profitent en somme. Mais personnellement, les ennuis passent de beaucoup les avantages qui en résultent. Les avantages fumés. Aujourd'hui, bien sûr, vous ne regrettez rien. Parfois, sans doute, vous vous interrogerez, que suis-je venu faire ici ? Vous êtes venu pour défendre le français. Vous y êtes parce que vous avez défendu la musique de votre cœur. Vous avez devant vous un cœur d'admiratrices et d'admirateurs. Vous avez devant vous un orchestre de violons et de viols de gambe, de flûtes et de clavecins. À la phrase sacramentelle « Monsieur, soyez le bienvenu », j'aimerais aujourd'hui ajouter « Faites-nous partager votre masse passion pour la musique baroque ».
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance de réception de Philippe Baussan de l'Académie française le 23 octobre 2008.